Par rapport à l'église d'Éphèse, je vous donne un verset pour donner réponse de manière biblique, de manière comme Jésus l'a enseigné, qu'il faut être uni à Christ, que c'est la base, c'est le fondement de la vie chrétienne. Sans cela, c'est une vie artistique. On peut se donner le masque qu'on veut, on n'est pas en relation avec l'épouse et en adultère avec son mari. C'est ça. Et donc, dans Marc, au chapitre 3, verset 13, Jésus monte sur la montagne, et Marc, chapitre 3, donc c'est l'évangile de Pierre, ça, hein. Marc, c'est le disciple de Pierre, hein. Parce que Marc n'a pas connu directement Jésus, si par la foi, mais pas par les yeux. Donc, il monta ensuite sur la montagne, verset 13, il appela ceux qu'il voulut, donc Jésus appelle. Il désigne, il choisit, et ils vinrent auprès de lui. Donc vous voyez que les disciples répondent. Il y a un acte de réponse. Il n'y a pas de prédétermination. Ils ne sont pas contraints et obligés. D'ailleurs, vous allez voir après qu'ils vont fuir, ils vont trahir. Moi, je trouve que c'est bon signe. Parce qu'il va falloir, Jésus va revenir, et puis après, oui, ils vont choisir. Donc il y a toute une pédagogie de Jésus pour que l'homme choisisse Jésus. Ce n'est pas une fatalité d'aimer choisir Jésus. Je ne suis pas d'accord avec le calvinisme. Dans la théologie de l'élection chez les baptistes, il y a une place pour la réponse libre et volontaire de l'homme. Bien que le salut ne dépende pas directement de nous, il est donné par Dieu, Dieu veut notre réponse. Et vous voyez, il a placé ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui. Il y a une réponse. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Le mot « les avoir avec lui » en grec, c'est « koinonia », ça veut dire « communion en lui ». Les amis, c'est pas simplement pour voir des copains et pour aller au club de football, ou au basket, ou au ping-pong. « Les avoir avec lui », vous étiez ensemble. « Oh, je vais demander à ma copine d'aller avec moi jusqu'à la cuisine là-bas. Hein » Ça va, mais Jésus, c'était plus que ça qu'il voulait. Hein? Alors, il en établit 12 pour les avoir avec lui, donc c'est la communion. La priorité de l'évangile, c'est la communion avec Christ. Ensuite, les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, moi j'ai dû prêcher dans beaucoup d'églises où je passais au Bénin, en disant, voilà, ils me demandaient de faire des prières de délivrance, etc. Ben oui, parce qu'on leur a mis ça dans la tête, aux pasteurs et tout, et comme ils n'ont pas des formations approfondies, ils pensent que c'est ça l'essentiel. Alors, moi j'ai dû prêcher chaque fois. Mais ils acceptaient, hein. Je dis, c'est d'abord la communion avec Christ, l'évangile. C'est la foi en Christ, dans sa croix, dans le salut qui est accordé, c'est pour avoir la vie éternelle. C'est pas pour avoir des délivrances, plus de sous dans le portefeuille, à manger demain, une jambe qui remarche, un dos qui ne fait plus mal, ou un œil qui se rouvre. Jésus n'est pas contre ça, mais c'est pas la priorité. Ensuite, la deuxième chose, c'était de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de la mort et résurrection de Jésus, du salut aux autres, ensuite de chasser les démons, ensuite de guérir les malades. C'est ça, c'est dans cet ordre-là. On n'inverse pas. Moi, j'ai dû insister là-dessus. Bon, ils acceptaient. Bon, il m'est arrivé après de prier pour des malades, etc. Oui, j'ai vu des gens qui étaient transformés. Mais ce qu'il y a, ne mentons pas, l'évangile et l'église, c'est pas pour faire du Barnum Circus. Alors, c'est très important, ça correspond au besoin qu'avait cette église d'Éphèse et auquel elle ne répondait plus. Ce besoin que Dieu a désigné. Vous devez être en communion avec moi. Ok ? Alors, nous sommes dans l'église où il y a Balaam, hein, c'est l'église de Pergame, au verset 12. Quand vous allez me dire l'église catholique, est-ce qu'il y a Balaam dedans ? Je vous ai dit, j'ai parlé d'une église évangélique où il y avait des gens qui faisaient ça. En Afrique, il y en avait qui s'introduisaient, qui voulaient paraître chrétiens, mais enfin, il fallait les trouver et les dénoncer. Le discernement, et puis c'est un cadeau de Dieu, parce que c'est impossible, hein, ils se cachent bien. Ils créent des dépressions. Moi, après le premier culte, j'avais une jeune femme qui m'invoque, « Pasteur, pasteur, je voudrais bien que vous priez avec moi. » Elle me courait un peu après, comme Muriel, et pratiquement ce qui se passe, les deux autres pasteurs adjoints disent, mais elle nous a déjà parlé, on a déjà prié avec elle, pour dire, continuez votre chemin, pasteur, ne perdez pas votre temps. Mais ben moi, quand j'entends ça, je me méfie. Je me méfie. Je m'arrête alors. Je suis un peu rebelle, moi. Hein? Alors, ce qui se passe, je dis, alors, ma sœur, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et il y avait du monde, hein, et vous savez, 2500 personnes. Alors, elle me dit, pasteur, depuis des années, pendant la nuit, il y a quelqu'un qui vient et qui m'offre à manger. Alors, je... Oui, mais je vais vous expliquer après. Alors, elle dit, et je lui dis, et vous acceptez? Non, non, je ne mange pas. Bon. Alors, je dis, c'est très bien. Vous avez résisté aux esprits impurs qui vous offrent des convoitises. Parce qu'ils vous offrent la convoitise, et puis du manger, puis après, du sexe, puis d'autres choses, de l'argent, etc. C'est une filière infernale. Ou du mensonge, etc. Vous avez résisté. Mais je ne dors pas, pasteur. Mais je dis, on va prier. Et le lendemain, elle est venue me retrouver. J'ai bien dormi, pasteur, j'ai bien dormi. Demandez toujours à Jésus de bien dormir. Donnez-lui vos nuits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai compris pendant la nuit, j'ai prié pour ça, j'ai compris que les sorcières qui étaient là, comme les seules qui étaient passées et ceux qui étaient passés avant, c'était de me jeter des esprits impurs de convoitise. Alors, c'est ça qu'on trompe. On voit dans les églises, c'est que tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui vient en mini-jupe, un autre qui vient, je ne sais pas, soutien-gorge, à peine transparent dans la chemise, et l'autre monsieur, ben, il ouvre la chemise, on lui voit ses poils, enfin, et tout le reste. Et puis, il y a des autres convoitises. Le beau parking avec les grosses voitures, ça c'est aussi une convoitise. Pour une église, c'est bien ça, hein?
En Bermuda aussi.
Parc des mandailles, quoi, dans l'église. Des grosses voitures, des docteurs, des avocats, enfin, des entrepreneurs, enfin, je m'excuse. Mais durée, c'est pas ça que Jésus a demandé. Alors, en Afrique, au Bénin, il y a 2-3 000 personnes, ils sont pieds nus. Alors, au temps de Jésus, c'est comment? Bon. Alors, il a fait son choix de ne pas venir à l'époque des ordinateurs, des téléphones et des Rolls-Royce. Hein? C'est voulu, ça. Hein? Il a fait son choix. Hein? Alors, pratiquement, les esprits de convoitise ruinent une église. Ils affaiblissent la foi et Jésus n'est... On ne s'intéresse plus à Jésus. Donc, c'était une bonne technique. J'ai réfléchi et donc je dis, il y a quelqu'un qui jette sur les gens un esprit d'affaiblissement, un esprit où ils sont usés par le tentateur et il faut que je prie et que je reconnaisse où ils sont. Et c'est ça que j'ai demandé toute la nuit. Pour le bien de cette église, hein. Pas pour m'en vanter ici, parce que vous savez, on ne sait rien faire contre Satan. Hein. Alors, pratiquement ce qui s'est passé, après tout ce que je vous ai dit, là, qu'elles étaient couchées dans le lit, je dis, vous les reconnaîtrez, elles sont couchées dans le lit, comme Jézabel, il faut aller les visiter et leur dire, leur offrir la perspective du salut, parce que si elles se trouvent brisées, elles ont peut-être compris qu'elles ne sont pas les plus fortes avec leur gugus de Satan. Ce qui s'est passé, c'est que l'Église a été dégagée d'un voile qui s'appesantissait sur elle, qui, elle n'avait plus de relation avec l'Église, elle était complètement harcelée dans les trucs. Alors, dans nos églises modernes, on est harcelé par quoi? Ben, par ce qui est en dessous de la ceinture. Il y en a beaucoup qui regardent sur la télévision, sur Internet, de la pornographie. Moi, j'ai tombé déjà, une fois, j'ai été dans une autre église, le gars est en psychiatrie, commandant de gendarmerie, en complète gaga, vraiment gaga. Et pour finir, j'ai dit à la femme, à la famille, déplacez-le, mettez-le dans un hôpital plus près de chez moi pour que je puisse aller le voir au moins une fois par semaine. Donc il est venu plus près, et vraiment il était très lié. Et j'ai pris la Bible, j'y étais toutes les semaines pendant des mois. Je dis, Seigneur, à quand? Mais je continue, Seigneur, je compte sur toi. Et puis un jour, je voyais, il pétait la forme, c'était fini, c'était plus le zombie, le bonhomme affaibli, et il avait retrouvé un esprit clair pour lire sa Bible, pour parler du Seigneur. Bon, ce qu'il y a, c'est que par la suite, on a conservé des liens, il est venu, mais à un moment donné, il commençait à envoyer sur email des tas de versets. Il prenait dans les trucs des programmes chrétiens et des versets, alors il se faisait ses petites théories. Et il ne voulait surtout pas qu'on lui dise ce qu'il fallait croire. Refus de l'autorité spirituelle, refus... Je ne comprends pas ça, mais enfin, c'était comme ça. Je lui ai dit, tu dois aller retourner voir ton ancien pasteur, demander pardon, te réconcilier avec les deux pasteurs. Il ne l'a pas fait, et il n'a pas voulu retourner dans l'église, il était à une place ou deux, et puis voilà. Bon, pratiquement au bout d'un mesure d'années, il n'est plus venu. Moi, je voyais son baratin sur l'ordinateur, moi, je coupais, je n'avais plus besoin de répondre. Il ne faisait que de s'écouter lui-même. Il ne faisait qu'à sa tête, soi-disant. Il écoutait plutôt le diable. Il recommençait à écouter le diable. À travers son ego grand, son nombril gros comme un klaxon de camion. Alors, pratiquement, ce qui se passe, ben oui, quand on est commandant, on veut commander Dieu. Alors, pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai appris qu'il était parti avec une ancienne religieuse catholique africaine et que la femme se trouvait tout seule avec les enfants. Bon, tout ça, c'est pour dire que l'œuvre de Satan se fait et il ronge les églises. Si le chrétien n'est pas conscient, il ne doit pas avoir des mauvaises compagnies qui corrompent. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. C'est mis clairement dans Corinthiens. Il ne doit pas regarder des spectacles sur Internet et tout ça. Parce qu'il sera piégé. Ce n'est pas neutre. Son âme sera imprégnée d'esprit impur. Il ne doit pas écouter du hard rock, du métal, des musiques de dingue là. Pourquoi? Elles sont créées par des groupes satanistes qui sont nés de Katia et Nadia Fox aux États-Unis. Deux filles, 17-18 ans, 1854, elles se consacrent à Satan. Sur 6 mois, elles ont 400 000 adhérents. Elles ont des pouvoirs de guérison et de séduction. Mais alors, beaucoup de gens qui ont été dans leur sillage ont créé les groupes de musique que je viens de vous citer. Et puis en France, il y a un gaillard qui a changé son nom, qui s'appelle Alan Kardec, qui opère la chaise. Il y a des bougies et des fleurs tout le temps qui sont allumées. Et il a foutu la poisse à travers la France et la Belgique, celui-là. Alors, en Belgique, il y a des églises qui s'appellent antoinistes, du père Antoine. C'est un ouvrier qui s'appelait Antoine. Alors, il y a des dons de guérison et tout ça. Je suis tombé sur des adeptes. Moi, je les reconnais parce qu'ils ont des marques sur le corps, comme si c'était brûlé à cigarette. Et puis, le 1er novembre, ils ont tous mal à l'estomac, parce que le père Antoine est mort, possédé, d'ulcère d'estomac le 1er novembre. Alors, c'est pas rien. Un jour, une jeune fille venait avec sa mère. « Ah, ma fille, elle a des crises, elle prend tout, elle casse tout et tout, le bazar. » Ah bon, ben, je priais d'arriver une fois à l'imprévu, et je suis arrivé à l'imprévu, je me suis assis dans le fauteuil, elle était en train de casser tout, c'est vrai. Hein. Elle était gentille comme un mouton, un ange, mais quand elle s'y mettait, alors j'ai prié en nom de Jésus, et puis elle s'est calmée, elle s'est arrêtée, elle n'a plus jamais fait. Mais alors, la télévision, j'aurais cru qu'il y avait 50 camions dedans. Je dis, elle va exploser sur notre nez. Je dis à la femme et à la fille, on sort, on va dans l'autre pièce, que le diable s'amuse avec la TV, il a perdu la partie. Il veut encore faire le malin, de toute façon, il n'a plus rien à dire ici. Mais c'est pour dire, il faut faire attention, Balaam, quand il rentre dans une église, c'est possible. Alors, comment il peut rentrer? Dans les débuts des premiers siècles, eh bien, on a inventé les statues, les saints, les chapelets, et tout le reste, les bougies. Tout ça, c'est des trucs de Balaam. Le seul médiateur entre Jésus-Christ et les hommes, entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée. Alors, tout le reste, ça vient de Balaam. Il y avait 5 secrets à Fatima. Et le 5e secret, il fallait le dévoiler un jour. Alors c'est Jean-Paul II qui a eu la tâche de l'ouvrir. Et vous savez ce que la Vierge à Fatima avait dit? Elle dit, détruisez l'autre qui a concurrence. Vous n'avez jamais été voir de tout près à Lourdes. Moi, j'étais à Lourdes. J'ai traîné des malades.
Mais le pèlerinage de la Vierge partie par là, c'est satanique tout ça.
J'ai traîné à Lourdes des malades, des journées entières. Puis j'avais de temps en temps une heure de libre. Ils me donnaient de l'argent, beaucoup d'argent. J'allais acheter des statuettes avec de l'eau. J'allais acheter des chaînes en or. Je suis rentré dans toutes les boutiques parce que il fallait que je fasse les boutiques pour trouver. Ma parole, la fortune qu'il y avait là-dedans. Et Jésus-Christ a demandé tout ça. Alors, pour vous clôturer tout, je vais vous dire pourquoi ça vient de Satan. Parce qu'un jour, il vient quelqu'un de 80 km aux réunions bibliques. Catholiques tous les deux, artisans à la retraite. Boulanger à la retraite. Ils viennent, mais en venant, ils retournent la voiture. Chaque fois qu'ils venaient chez les évangéliques, ils avaient un problème, bizarre. Et puis alors, un jour, ils me confient que leur fils, qui est kiné, a des problèmes. Il travaille à Berlin, il est homosexuel. Mais il va en vacances en Italie, il est en Bermuda, il est en t-shirt. Hein? Et voilà, il fait le tour du Vatican, il regarde les peintures de Michel-Ange, tout le bazar, et puis il devient copain avec un curé de là-bas. Qui est à la télévision en troisième position? Le pape, hein, troisième position. Qui passe le calice, qui passe le livre, enfin, qui est là tout le temps, sur toutes les images de télévisées. Et ils deviennent copains, et régulièrement, de temps en temps, le prêtre en question prend une semaine, prend l'avion et va à Berlin coucher avec le gars. Donc il lui a confié des tas de choses que le fils a confiées aux parents et que les parents ont confiées. Il avait la tâche de faire toutes les médailles de Marie, de Sainte-Anne, de Sainte-Claire, enfin tout ce que vous voulez, hein, du petit enfant Jésus de Prague, enfin tout, les chapelets et tout ça, pour vendre à Rome quand les gens viennent, et sur tous les lieux de Lourdes et tout ça. Et tout ça, ça faisait des centaines de millions qui étaient donnés à l'Opus Dei pour les œuvres d'extrême droite, dangereuses Opus Dei. L'Opus Dei, à l'époque où démocratiquement les socialistes et les communistes en Espagne ont eu le pouvoir, en 1932, démocratiquement, par un vote, l'Opus Dei, donc l'organisme d'extrême droite, fabriqué par les jésuites, a recommandé à Franco d'économiser les cartouches. Quand on prenait les rouges, on les couchait sur la route pour économiser les cartouches, et on passait avec le camion dessus, aller-retour. Ça ressemble étrangement à ce que Satan faisait au Bénin sur les nouveaux convertis, non? Ça ressemble étrangement à ça. Et voilà où ce qu'on en est. Et ça, c'est aujourd'hui. Alors, ces gens-là m'ont dit, et à Mylène, ils nous ont dit, ils venaient en pleurant chez nous, ils nous ont dit, est-ce que vous ne pouvez pas un autre fils l'aider à sortir de ça? Bon, d'accord, je réfléchis, une semaine de répit. On va prier pour ça. Je téléphone, oui, d'accord, on ira voir votre fils quand il revient chez vous. On y va, et avant d'arriver, on avait prié, on les croise. Ils étaient tout blancs, mais blancs, plus blancs que le plafond, là. Ils partaient sauvés quand on arrivait. Mais malheureusement, on les a croisés. Alors, ils partaient, et vous allez, ben, on s'en va. On va dans le bois, on va abattre des arbres. Ben, il a été abattre des arbres, il y en a un qui est tombé sur lui. Heureusement qu'il y avait un petit creux, il était en dessous. Il fallait aller le repêcher. Un gros arbre. Il n'avait jamais eu ça de sa vie. C'est bizarre quand même. Il vient avec l'auto chez nous au Réunion, il la retourne, on vient et il y a un arbre qui tombe. On pourrait dire que c'est nous qui apportons la malédiction. On apportait le Seigneur Jésus et le diable il l'empêchait. Oui. Alors, ben on va à la porte, ça ne répond pas, le fils était dedans. Sans doute que le fils avait eu, je vais le dire après, des manifestations bizarres. Donc on va se promener avec les enfants. À droite et gauche, on visite la forêt, les coins. On se dit, on va leur faire un sale coup, on revient dans 5 heures. 5 heures après, on arrive à la porte, puisqu'on avait dit qu'on venait, on vient. Et là, ils nous font rentrer. Faut bien. Alors, ils nous offrent un morceau de tarte et tout ça. Et puis, où est votre fils? Benjamin, en adulte, 35 ans. Ben, il est en haut. Mais il ne veut pas descendre. Alors, il y a les petits-enfants qui étaient là, il y avait d'autres enfants, hein? Les petits-enfants montent, ils vont voir Benjamin. Ils reviennent auprès du grand-père et de la grand-mère. Oh, il a une sale figure. Il fait des grimaces. Il tombe par terre. Donc, il était en train de faire une crise démoniaque en haut. Il était possédé. Possédé deux fois. Par les démons d'homosexualité et par tous les démons du Vatican. D'imposture. Faire des médailles et des chaînettes et tout ça pour ramasser les sous de tous les crédules. Pour assister à un organisme d'extrême droite. Iniquité en plein. Repère de démons. Alors, dans le christianisme, où ça s'arrête l'œuvre de Christ, où ça commence l'œuvre des démons? Il faut toujours savoir que Satan cherche à se déguiser en mouton, pour paraître une brebis, etc., dans le troupeau. Et puis, crac! Sur celui qui a un ego, qui ne lit pas sa Bible, qui n'est pas éclairé, ou qui n'a pas des dirigeants éclairés, qui l'avertissent. Donc ça, c'est le Balaam. On doit aller manger bientôt, il faut se débiner. Verset 18, l'église de Thyatire, Apocalypse 2, 18. J'insiste, Jésus suffit. J'insiste, tout le reste, ça vient du diable, hein. Et c'est pas du fictif, hein. Si vous ne le croyez pas, venez vivre un mois avec moi, allez en visite avec moi, je vous montrerai le vrai et le faux. Vous allez voir que ce n'est pas du gâteau. Hein. Alors, et c'est partout comme ça. Hein. Je veux bien vivre ici, dans le coin. Hein. Je trouverai des deux sortes. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, moi. Le Seigneur m'a toujours mis dans tous ces bazars-là. Je regrette, quand on veut être missionnaire, c'est comme ça. Hein. On ne choisit pas, hein. On est en face. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, donc au messager, au responsable, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Vous avez cette description-là dans Ézéchiel chapitre 1 et dans Daniel chapitre 10. C'est le Christ qui est déjà paru 6 siècles avant, qui est éternel. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Sacré bulletin, hein? 19 sur 20. Hmm? Magnifique. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc il y a une femme qui dirige les responsables de l'église par le bout du nez. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Il faut aller voir dans la Bible ce qu'est Jézabel. Le culte à Moloch, c'est des sacrifices humains, c'est des sacrifices diaboliques. Donc c'est une femme qui paraît chrétienne, qui paraît très bien, et qui est en fait avec Satan. Et qui a des pouvoirs. Ça existe. Hein. Bon, comme le temps est compté, ça existe. Moi, je suis déjà tombé sur des phénomènes pareils, au féminin, qui se dit prophétesse, donc qui parlait avec des versets bibliques, qui parlait de Dieu, etc. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc, azelgia, ça veut dire dérèglement, tant la sexualité que la pornographie à TV, etc. Ou aller en maison close ou quitter sa femme ou en avoir une deuxième. Les anciens d'église qui font ça, c'est un problème, hein, ça. Quand c'est pas la femme du pasteur qui le fait, et puis qui part, et le ministère du pasteur est à plat. Chez les baptistes, si la femme n'est pas fidèle à Christ, le mari, le pasteur doit arrêter, hein, c'est clair. Nous, dans les églises baptistes, ici, dans lesquelles nous faisons partie, c'est comme ça. On ne peut pas faire un attelage disparate. Il faut être unis à deux dans le ministère. Alors, qu'est-ce qui se passe pour se livrer à l'impudicité et manger des viandes sacrifiées aux idoles? Donc, l'impudicité, le dérèglement, c'est toutes sortes de... Quelqu'un qui joue à la bourse, qui joue au jeu de loto, qui met des tatouages, c'est de l'impudicité, c'est du dérèglement. Et plein d'autres. Et puis, quoi d'autre? Manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ben, les viandes halal, par exemple, aujourd'hui. Moi, je suis chrétien, mais je trouve qu'elle est moins chère là-bas, elle est bonne. Mais elle a été, on a prié vers la Mecque, vers l'Antichrist, sur cette viande. Il ne faut pas la manger. Je vous dis ça comme ça, ça fera réfléchir. Hein. On peut être d'accord. Ben, vous vous rendez compte des prières qu'il y a là-dessus?
Papa, si on est invité chez un musulman, on le fait pour l'honorer quand même.
Si on est dans le ministère qu'on peut résister aux suites, ça va, compris et tout, mais il ne faut pas en faire une habitude, il ne faut pas aller se jeter dans la gueule du loup, parce que c'est très profond, c'est dans l'invisible, tous ces trucs-là. Alors, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité, de son dérèglement. Je l'ai jeté sur un lit, envoyé une grande tribulation, commet adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, etc. Moi, il m'est arrivé de devoir prier contre une personne comme ça. La maison a brûlé. Les camions de pompiers sont arrivés. Ils n'ont jamais pu arroser. Tout a brûlé jusqu'au bout. Le fils a un accident le même jour. Elle est partie avec son fils. Autre part, il faisait tellement de mal dans la région. Mais j'avais une promesse du Seigneur, hein, avant. Hein. Il y a un combat très fort. C'est pour ça qu'il faut former des soldats dans la foi, dans l'adoration, dans l'intercession. Il faut qu'on ait des bons pompiers, des bons médecins et des bons catcheurs pour les églises de Christ, au niveau spirituel. Alors, les eaux de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, donc de Jézabel, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, qui ne se sont pas mis en communication avec les démons hein, et Satan, via cette femme séductrice, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. J'ai un ami qui était missionnaire dans un autre pays et il était en détresse, hein, ça n'allait plus, donc je prends l'avion et il me supplie de venir. Ça faisait 2-3 ans déjà que je priais, mais il me supplie de venir. Dans cette église-là, il avait choisi un homme comme diacre et puis ensuite comme ancien. Cet homme-là, derrière son dos, pendant que lui il évangélisait, il a profité de sa femme, il a touché à des gamines, à des gamins. Et puis, l'air de rien, très gentiment, il a amené des gars pour jouer la musique avec la batterie et tout le reste. Alors, pendant le culte, quand mon ami pasteur missionnaire est revenu à l'église, il revenait souvent, il entend jouer tout ça, il dit, vous faites trop de bruit. Vous faites trop de bruit. Il n'y a plus de recueillement, plus d'adoration. C'est pas ça que j'ai voulu. Pourquoi vous faites ça? Les autres, en plein culte, tapent tout à terre et partent. Et le pasteur sort après, il court après eux. Il les rejoint, ils se retournent et lui disent « On est venu ici pour détruire ton église au nom de Satan. » Les deux gars. Ça va? C'était clair? Vous savez que l'œuvre de Satan était tellement forte qu'un jour, il y a eu un vote, toute l'église a viré le pasteur dehors. Lui, le fondateur de l'église. Il était dans le désespoir, était fatigué et tout. Mais je l'aimais tellement, j'y étais. Alors, je ne sais plus, quelqu'un disait qu'il faisait le tour de l'église, qu'il se promenait hier, je ne sais pas qui. Bon, ben j'étais là-bas, et moi, tous les jours, j'allais promener, je prenais ma Bible, des heures, je priais, et je tournais à l'entour de l'église. Et le fauve, là, le gars qui avait trompé tout le monde, qui avait fait en sorte que le pasteur fondateur soit parti, était dedans. Toute la semaine, il était dans le local, il l'occupait pour que personne ne rentre. Et le dimanche, il fermait tout à clé, il prenait le camion, son matériel d'entreprise, il allait travailler. Il avait tellement eu de pouvoir psychique et spirituel de Satan que même la Fédération Baptiste, à la capitale, le soutenait. Vous parlez d'autorité spirituelle, mais ce n'était pas très spirituel. Il a fallu des années. Moi, j'ai été tourné à l'entour du bâtiment en priant au nom de Jésus. Tous les jours. Je n'étais pas en voyage de villégiature là-haut. Et je sentais vraiment la présence de Satan. Il tournait, il était dans les pièces, il me regardait. Bon, on ne s'est pas parlé, ce n'était pas la peine. Si on avait été à 2-3, oui. Mais j'étais tout seul. Et mon ami pasteur était tellement affaibli, je ne pouvais pas le prendre pour confronter l'autre. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu, avec mes petits moyens, c'est-à-dire en invoquant le Seigneur. C'est des grands moyens, mais il faut être en principe à deux. Le Seigneur envoie à deux. Hein. Alors, un certain jour, je passais, tout près d'un petit bois, c'était joli, je me promenais. Je vois une voiture qui roule lentement avec 4-5 bonhommes, des jeunes gars de 35-45 ans, et qui ont l'air de rien comme ça. Et puis, je dis, ils vont jusqu'au bois. Et tout d'un coup, dans mon âme, le Seigneur m'avertit, il t'attend là-bas. Si tu y vas, tu ne reviendras pas vivant en Belgique. Je prends le premier chemin à droite, je monte la colline, je me cache derrière un buisson et j'attends et je regarde. Je prie. Il repasse, à 10 à l'heure, il regarde partout. Il me cherchait. Ils ne m'ont pas trouvé. Pas Satan, ça? J'ai eu ça quelques fois dans ma vie. Hein. C'est bon que le Seigneur ait été là avec ses anges, parce que plusieurs fois, je vous le dis. Peut-être qu'un jour, le Seigneur voudra bien que je meure, hein, et il les laissera taper.
En attendant, tous les chrétiens de cette église-là sont disséminés à droite à gauche. C'est parce que notre ami, il recommence des équipes de début à droite à gauche, dans un autre endroit. Mais il y avait de l'argent qui était venu de France pour le bâtiment.
De Belgique, de tout ça.
De Belgique, de partout. Pour qu'ils aient un beau bâtiment d'église et tout, pendant plusieurs années. Et bon, donc le bâtiment est là.
Et habité par ce fils du diable.
Remis, le bâtiment, veulent faire dedans un centre de fitness.
Et discothèque et tout ça.
Mais bon, notre ami n'a pas arrêté d'évangéliser, il a recommencé des groupes hippies d'ailleurs.
C'est de où ça,
le bien.
Ah oui,
c'est différent. Oui, c'est joli.
Alors, vous savez, les combats, et on se figure toujours que les combats, c'est là-bas. Attention de regarder comme il faut tout près. Parce qu'avec Jésus, qu'est-ce qui l'a trahi ? C'est celui qui était tout près qui mangeait dans son plat. Attention de ne pas être d'ennigo. Il faut avoir de l'instruction dans la Bible, il faut avoir une vie spirituelle, il faut vivre entre frères en profondeur, pas en surface, comme notre société moderne le propose si gentiment. Alors, continuons dans les églises. L'église de Sardes. Ah, Sardes, pas pour les sardines. Eh bien, cette église, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Oh là là, ouï, ouï, ouï. Sois vigilant à faire mille restes qui est près de mourir. Donc, sur 25 ou 50 personnes, il y en a 3 qui sont en Christ. C'est ça que ça veut dire. Peut-être 1, peut-être 10. Mais à mon avis, c'est 2-3. J'ai déjà vu ça. À droite et gauche, j'ai déjà vu ça. Je pense que souvent dans les paroisses catholiques et protestantes officielles et orthodoxes, c'est ça. Vous avez 80, 100 personnes, il y en a 2-3 qui vraiment ont le Seigneur dans le cœur et qui sont avec le Seigneur et qu'il faut aider. Il faut aider. Et moi, je les aime, qu'ils soient catholiques ou... Et parfois, j'ai déjà rencontré des musulmans, ils sont vraiment attachés à Dieu, au vrai Dieu. Alors, il faut reconnaître les morts des vivants. Il faut nourrir les vivants. Il faut les aimer. Quand, si on est évangéliste, il ne faut pas marcher comme l'éléphant sur la porcelaine. Il faut distinguer. Il faut revoir. Il faut reconnaître. Alors, pratiquement, ce qui se passe, cette église, ben, elle est foutue, en gros. Elle est condamnée. Mais il y en a quand même dedans qui sont vivants. Donc, il faut avoir de l'amour et de la précaution, de la vigilance. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc c'est les vierges folles, ils ont la Bible, la lampe, il n'y a pas d'huile dedans, Saint-Esprit ne l'écoute pas, pas de lumière, ne connaissent pas Christ. J'ai juste une affiche, quoi. Je suis chrétien, quoi. Je trimballe ma Bible de temps en temps, je la lis pas. Alors, et puis il y a les autres qui ont la lumière, qui vivent. Ici, il y a donc 2-3 qui ont la lumière à leur lampe, la Bible, l'activité du Saint-Esprit et la vie de Christ qui les dirige. Alors, c'est clair, voilà une église, il y en a beaucoup. Et il y a des églises évangéliques aussi comme ça. Dommage, mais c'est comme ça. On n'échappe pas. Il faut prendre une vraie responsabilité. Église de Philadelphie. Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Donc c'est le Christ. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance. Donc, pas des grands comptes en banque, pas des grands bâtiments, pas un beau parking avec des belles grosses voitures, etc. devant. J'en ai vu au Bénin, hein. Des petits poteaux, des bois tordus, des tôles, quelques ventilateurs, 800, 2000, 3000, 5000, 6000 personnes en dessous, mais ils sont sans puissance, hein, ces gens-là. Ils ont juste un habit sur le dos, hein. Des fois, ils n'ont même pas de souliers. Et ils travaillent la terre du matin au soir. Et ils sont là au culte, et pendant 4 heures, on loue le Seigneur, mais ils ont une paix sur le visage. Et les gosses ne bougent pas, ils participent, les gosses. Alors, qu'est-ce qui se passe, l'église de Philadelphie, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, 2 caractéristiques. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole. Regardez-moi ça. Un cœur honnête et persévérant, comme dit Jésus dans Luc. Elle a gardé ma parole. Dans Jean 5, 24, 23, 25, c'est mis ceci. Celui qui garde ma parole, et qui a vie, bien sûr, est passé de la mort à la vie, ne passe point en jugement. Et il y a un jour, et il est venu, où les morts entendront ma parole et ils vivront. Ce jour est venu. Donc il y a des gens qui sont passés de la mort à la vie par la parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte ouverte au Golgotha, quand le voile s'est déchiré, elle ne s'est pas refermée pour eux. Elle est toujours ouverte. Et je te donne des gens de la synagogue de Satan qui disent juifs et qui ne sont pas. Eh bien, dans ces gens-là, sans doute des évangéliques, depuis 60 ans, il y a des évangéliques qui ont évangélisé les juifs, un peu partout dans le monde, qui ont fait des revues, qui se sont adressées à eux. Sur 18,5 millions de juifs, il y a 2,5 millions de juifs convertis, qu'on recense. Mais avec tout ce que j'ai vu là-bas, ceux qui viennent chercher les Bibles, c'est peut-être le double maintenant. Donc, dans les églises de la parole, dans les églises de la fidélité à la parole, dans les églises qui vivent la parole, il y a eu un ministère qui est donné à la fin des temps, c'est de rapporter à Israël ce qu'Israël avait donné aux nations et n'avait pas reconnu. Et ça, c'est Romains 11. Quand la totalité, 11 verset 35, quand la totalité des païens seront entrés, alors je grefferai Israël à nouveau. Parce que mes promesses et mes dons, mes appels sont irrévocables. Et tiens, Dieu qui est tout puissant, se sert d'une église qui n'a pas l'air très importante. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je le garderai aussi à l'heure d'une tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Donc, elle ne sera pas dans les tribulations. Ok ? Et cette église-là, j'écrirai, je ferai de lui, donc de cette église-là, de ces chrétiens, une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous imaginez ? Une colonne dans un temple, ça se voit. C'est beau. C'est ça qui donne la beauté à l'édifice. Eh bien, les chrétiens de la parole qui ont amené Israël à retourner, qui ont ramené les ouvriers de la 11e heure dans la ville, ces gens-là sont mis en évidence comme des piliers dans un temple. Gloire et honneur à celui qui vit de la parole. Gloire et honneur un jour. Dans Romains 1,15, angoisse et tribulation sur l'âme du pécheur. Gloire, honneur, immortalité sur celui qui croit en Christ. Alors, nous voyons ici, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc il sera partie intégrante de la Jérusalem céleste. Apocalypse, chapitre 19 à 22. Les tribulations sont finies. Jésus redépose son église avec la Jérusalem qui est descendue du ciel. C'est tout clair, ça me paraît tout simple, mais il faut mettre le prix. Garder la parole de la persévérance en moi. En moi. C'est pour ça qu'il faut aimer amoureusement Jésus. Hein. Pas rien qu'avec la tête et les idées. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc c'est une ville qui a existé, hein. Et qui existe toujours, il y a des sources d'eau chaude qui coulent là comme sur du marbre blanc en cascade. Tous les touristes qui vont en Turquie vont voir ça. On peut se mettre dedans, c'est doux, c'est bon. Et donc c'est là, c'est juste à côté, Laodicée. Alors Jésus leur parle, hein, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque, bah oui, l'eau est tiède, c'est donc une réalité. T'es comme l'eau qui est là à côté de chez toi, où tout le monde va se baigner, t'es tiède. Et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, présomption, je suis riche, je me suis enrichi. Donc il y a l'esprit de présomption. J'ai remarqué ça, que depuis quelques années, je ne sais pas, le mai 68 est tombé sur beaucoup de chrétiens. L'esprit de présomption. Il n'y a plus moyen de leur dire quelque chose. Plus moyen de faire passer quelque chose. Il faudrait toujours les encenser, il faudrait toujours les accepter comme ils sont. Mais s'il y a du péché, et quel responsable ne peut pas aider quelqu'un à sortir de ses ornières? Ça sert à quoi? C'est parce qu'il a la présomption. S'il a un cœur brisé et humble, le responsable aussi doit l'avoir, le cœur brisé et humble. Mais il est là pour aider la personne à remonter dans la communion en Christ. Donc ici, ce sont des gens qui sont devenus présomptueux. Je suis riche, je n'ai besoin de rien, ben surtout pas que le pasteur me casse les pieds. Surtout pas de la parole de Dieu. Alors, est-ce que ça existe? Ah ben oui, on vient, un jour un couple arrive à l'église. Oui, pasteur et pastorette. Hein, la femme. Ils avaient fait beaucoup d'églises, ils aidaient les églises à faire du réveil spirituel. Ils étaient de tendance pentecôtiste. Ils arrivent, au bout d'un certain temps, elle vient à la maison avec toute une liste. Tous les défauts qu'elle avait relevés chez moi. Donc elle les cite devant ma femme, et je lui dis, mais vous avez raison, j'ai tous ces défauts-là. Mais je suis sauvé par grâce. Et le Seigneur a pris les misérables pour le servir. Vous voudriez que je sois parfait, ben alors il n'y a personne qui peut le servir. Alors, je ne vais pas dire le prénom, parce qu'on ne sait jamais avec ces machins-là, ça va sur Internet. Alors, pratiquement, écoutez, vous êtes parfaite, vous ? Votre mari est parfait ? Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Jésus est venu pour les malportants, pour les malades. Alors, brûlez votre papier, s'il vous plaît. Alors, c'est une tentation, hein, pour que je rentre dans la bagarre ou que je recherche. Hein, j'en suis fatigué, mon Dieu, Alors, pratiquement, ce qui se passe, elle vient au culte et puis elle dit, il faudrait que tout le monde prie en même temps. Comme ça, ceux qui n'osent pas prier pourraient prier. Alors, il faudrait que tout le monde prie en même temps. Brouhaha, hein, brouhaha général. Oui, c'est mieux et tout ça, oui. Et alors, je dis, mais comment on dira Amen à la prière de chacun pour voir si ça vient du Saint-Esprit ? S'il y en a qui prient Satan en même temps que d'autres prient Dieu, comment on le distinguera ? Elle ne me répond pas. Elle revient, elle continue à aller au culte. Elle avait des côtés généreux et bien, hein, cette dame. Je ne peux pas dire qu'elle avait tous les défauts du monde. Mais pratiquement, elle s'est garée au niveau de la vérité biblique. Et pratiquement, ce qui se passe, un jour, elle dit, dans une conversation après le culte, elle dit, ça fait des années que je n'ai pas lu la Bible. Ben oui, je la connais tellement que je n'ai plus besoin de la lire. Madame la pastorette, c'était en dessous de tout. Hein. Alors, un peu après, elle ne vient plus au culte. Et elle va aider l'évêque de Verdun à organiser les voyages des malades à Lourdes. Elle ne vient plus à l'église
et puis
après, on en a vu toutes les sortes, je vous garantis, hein. Purée, c'est bon qu'il y a le Seigneur dans notre cœur, autrement j'envoie une grenade, moi je pars, hein, j'ai fait chauffer dans la casserole la grenade pour qu'elle pète bien dans le four et boum, hein. Zut, hein. Engagez-vous qui disait Jésus, mais engagez-vous qui disait Jésus, mais attention, hein, porte ta croix, hein, parce que franchement, tu ne sais pas ce qui t'attend. Alors, un peu après, 2 ans après, on a été en visite chez eux et tout ça, nous recevait bien, parce qu'elle avait quand même bon cœur, hein, et lui aussi. Il n'avait pas grand-chose à dire, elle portait les pantalons. Hein. Alors, pratiquement, on apprend qu'elle divorce. Ils étaient mariés d'au moins 35 ans. Hop, séparation, divorce.
Et lui, pasteur, il était pasteur ?
Oui. C'est beau, hein, tout ça. Vous croyez que ça n'arrive qu'une fois ?
Non.
Mon Dieu.
Il était pasteur en Norvège ou en Suède.
Bon, en Nouvelle-Zélande, en Hollande, partout il avait circulé. Mais n'empêche, pour des réveils spirituels, c'était pour des enterrements spirituels des églises qui passaient. Hein ? C'est grave, hein, des attitudes pareilles. Alors, méfiez-vous quand quelqu'un vous parle d'un réveil spirituel. Hein. Pourquoi que je dis ça ? Parce que quand moi je lis le Coran, je vois qu'il faut réveiller les chrétiens et les juifs. Et dans le wahhabisme, Jésus n'a pas dit qu'il donnerait le paraclétos, le protecteur, le consolateur. Pour les wahhabistes, les juifs et les chrétiens ont travesti les paroles de Jésus parce que Jésus aurait dit d'après eux, il va envoyer le Périclétos, l'homme du feu, donc Muhammad, pour purifier les chrétiens et les juifs, qui n'obéissent pas à la parole. Lisez. Si vous vous mettez à lire le Coran, attention, hein, faut quand même, il faut avoir de la stabilité spirituelle, hein, il ne faut pas aller là-dedans. Mais moi, c'est clairement du mensonge et de la jalousie sur les chrétiens et les juifs. C'est l'ennemi qui parle là, qui jalouse l'épouse de Christ. Voilà, c'est le jaloux qui veut détruire l'épouse, puisqu'il ne sait pas détruire le mari, Christ. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez dans l'église ici, de Laodicée, des gens qui croient qu'ils sont, ils ont de l'adoration, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. L'or, c'est l'adoration dans les livres sapientiaux. L'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire repasser au feu. C'est quoi le feu? Quand Jean-Baptiste dit, Jean-Baptiste annonce en montrant Jésus et qu'il le baptise, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est quoi le feu? Ben, on trouve dans Jérémie, au chapitre 23, la parole est comme un feu dévorant, comme un marteau qui brise le roc. Pan! Il faut casser la tête, il faut casser tout, il faut passer tout par le feu pour que notre frère ait une vraie adoration. Ben, les épreuves et tout, et lisez la première et la deuxième épître de Pierre, vous verrez que l'esprit de gloire est sur ceux qui sont éprouvés. Il faut être passé. Donc ça correspond bien à ce que Jean-Baptiste a dit. L'Esprit Saint, baptisé d'Esprit Saint et de feu, vas-y, tu vas être transformé, tu sais, tu vas voir. Tu me suis, tu seras transformé. Hein. Je ne vais pas seulement changer la façade. C'est ça que ça veut dire. Que tu deviennes riche de vêtements blancs, donc la sainteté, pour que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc tu sais très bien que tu n'es pas en ordre avec moi, tu n'es pas bien, mais tu te caches. Et tu n'arrives plus à cacher ton péché, il est tellement grand, mais je voudrais bien que tu n'aies plus honte. Je voudrais bien te rhabiller, que tu n'aies plus des feuilles de figuier comme Adam et Ève, mais que tu aies la peau de l'agneau sur toi. Le sacrifice de Christ et sa résurrection sur toi. Que tu sois une église sainte. Par le Saint-Esprit venu du ressuscité qui est mort pour tes péchés. Donc, allez, en route, repentance et conversion dans l'Église. Je reprends, je châtie tout ce que j'aime, c'est très bien. Quand un parent ne sait pas châtier et corriger ses enfants, c'est qu'il ne les aime pas. Et donc du zèle, ça veut dire feu, ardeur, repends-toi, change de vie. Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc vous voyez bien que Jésus est hors de l'église, il n'y a plus de place, il toque. Si vous entendez ma voix, vous ouvrez la porte, ça veut dire ça. Dans la théologie des églises baptistes, le Christ a donné tout le salut à la croix, et il donne le Saint-Esprit. Mais nous sommes responsables d'ouvrir la porte, d'entendre, d'accueillir Jésus. Tandis que dans le calvinisme, attention, j'ouvre la porte parce qu'il y a une ouverture automatique. Et, bah, Dieu a décidé qu'il y aurait une ouverture automatique pour certains et pour deux autres. Parfait, ça referme, on n'aurait pas à pousser. Dieu a décidé que toi, tu aurais les oreilles bouchées, toi, tu aurais les oreilles ouvertes. C'est dangereux, les amis. Je pousse un peu à l'excès parce qu'il y a toutes les gammes de modulation entre les baptistes et les calvinistes. Il y a toute la gamme, hein, parce qu'on trouve du